Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bon, après la Corée du Nord, on part en Chine, Didier.
Oui, c'est bien aussi.
On part à la rencontre du grand timonier, l'homme aux multiples facettes, celui qui a influencé les politiques du monde, Mao Zedong.
J'allais dire, je crois voir de qui tu vas nous parler.
Voilà, un grand homme.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui, enfin, oui. On va découvrir tout
ça. Et puis, Didier, en deuxième partie d'émission, tu vas nous faire découvrir ce qu'était la surprenante cuisine royale en Asie.
Oui, là, moi, on va saliver.
On va saliver. Bon, Mao Zedong, ou Mao Zedong, oui, est le leader chinois le plus important de l'histoire de la Chine du XXe siècle. Tout le monde le sait.
Ça.
Mais tout le monde ne connaît pas tous les aspects de sa vie.
J'imagine.
Il est né le 26 décembre 1893 dans la province du Hunan, à l'époque du déclin de la dynastie Qing, la fameuse dernière dynastie, et sous le règne de la non moins fameuse impératrice douairière Cixi, qui est morte très 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 vieille. Et Mao est mort à 82 ans, le 9 septembre 1976 à Pékin.
76, oui, c'est finalement
oui, c'est
pas si vieux que ça.
Mais ouais. Non, c'est pas vieux du tout même. Mm-hmm. Il avait une personnalité très complexe, Mao, et il a suscité autant d'admiration que de controverses.
Comme souvent.
Ouais. Alors c'est lui le fondateur de la République populaire de Chine en 1949. Mmh. Et il a dirigé le pays d'une main de fer pendant 27 ans, quand même. Mmh. Et cela jusqu'à sa mort. Alors, aujourd'hui, je ne parlerai que des années qui ont précédé son accession au pouvoir et de sa personnalité. On reparlera de la suite dans une autre émission, parce que la vie de Mao, c'est quand même...
C'est long. Notre émission est bien trop courte pour ça.
Exactement.
Mais c'est bien, on en a plein des émissions encore.
C'est ça.
Ok, bah alors du coup, s'il te plaît, quel genre d'homme était-il quelle jeunesse avant de devenir justement l'homme politique qu'on connaît un peu plus?
Oui, c'est important de connaître ça.
Oui.
Alors, il est né à la campagne, dans une famille de paysans plutôt aisés. Son père était un agriculteur prospère et strict, et sa mère, femme au foyer et bouddhiste pratiquante. Ça me rappelle un peu Gandhi à ses débuts. Mais bon, ils n'ont pas pris le même chemin. Mao est allé à l'école de son village où il a étudié les classiques chinois, notamment les œuvres de Confucius. Mmh. On s'en doute un peu. Hein.
Oui.
Ce n'était pas un très bon élève et il préférait lire des romans populaires chinois avec des héros qui se révoltent.
Ah bah tiens, voilà. Forcément.
Il n'était pas très sérieux au début. Ouais. En 1906, à 13 ans, il va partir poursuivre ses études dans une école secondaire moderne. Et là, il va découvrir le nationalisme et la pensée humaniste d'auteurs occidentaux comme Jean-Jacques Rousseau.
Ah.
Et oui. Et à cette époque, on en était aux prémices de la première révolution chinoise, hein, 1906. Mmh. Et la première révolution chinoise, hein, c'est 1911. Et bah, l'empereur Puyi, le fameux dernier empereur des Qin, a abdiqué. Et Sun Yat-sen, dont on parlera aussi une autre fois, sera le premier président de la République chinoise. Et Mao va s'intéresser de plus en plus à la politique. Mmh. Mais il n'a que 18 ans.
Oui. Ah.
Alors, il va passer quelques mois dans l'armée et poursuivre ses études après et va s'engager dans l'activisme politique. Il va étudier à l'école normale et enseignera l'histoire avant d'être nommé aide bibliothécaire à l'université de Pékin. C'est quand même un titre, je dirais sinon prestigieux, du moins important.
D'accord. Okay. Bah alors, du coup, dans une bibliothèque, on imagine bien qu'il va pouvoir continuer à découvrir des penseurs révolutionnaires.
Bah, tout à fait, Didier. Il va lire Karl Marx et Friedrich Engels, des philosophes socialistes, et cela va l'inciter à s'opposer à l'influence occidentale. Mmh. Et aux traditions confucéennes, très important ça, en participant à des groupes d'étudiants engagés dans la réforme sociale et politique. À cette époque-là, avant la Révolution, c'était quasi moyenâgeux, hein, la Chine, hein, sur le plan social.
Je suppose, oui.
Voilà, alors c'est Li Da Zhao, son supérieur à la bibliothèque qui va profondément l'influencer.
D'accord.
Et Li Da Zhao était un célèbre intellectuel et l'un des premiers marxistes chinois.
Ah oui, un ça nom s'explique important. Un petit peu quand même.
Voilà. Et cette rencontre renforcera encore son engagement envers le marxisme.
Mmh.
Alors, en 1921, Mao a 28 ans. Et ce sera dans la concession française, on peut être un petit peu fier de ça quand même, la concession française de Shanghai. Alors, il faut savoir à Shanghai qu'il y a un quartier délégation. Alors aujourd'hui, c'est un quartier qui a été restauré, il n'y a plus de légation proprement parler.
Oui.
Mais il y avait, je dirais, c'était comme des comptoirs, une zone où il y avait des quartiers qui étaient délégations. Il y avait Allemagne, l'Europe était très représentée. Et c'est donc dans la concession française de Shanghai que Mao va participer à la fondation du Parti communiste chinois.
D'accord.
Donc, on pourrait presque dire que le Parti communiste chinois est né en France. Voilà.
Un petit raccourci, mais oui.
Un petit raccourci. Et en fait, il est devenu un des 13 membres fondateurs du PCC. Il avait 13 membres fondateurs, c'est pas beaucoup.
Non.
Et il va jouer un rôle actif dans l'organisation du parti et dans sa province natale. Alors, il faut savoir que si on va à Shanghai, on peut aller visiter la maison où est né le parti. Hein.
Ah oui.
C'est écrit en gros, hein, Parti communiste chinois, c'est resté et entretenu comme ça.
Bon,
C'est quelque chose à voir.
D'accord.
Voilà.
Tu me dis qu'il a pris parti à la fondation, mais en fait, ça a été quoi son rôle dans cette fondation du Parti communiste chinois ?
Au début, il était discret, Mao. Hein. Alors, petit rappel, en 1921, Sun Yat-sen n'était plus président.
D'accord.
Son parti nationaliste, le Kuomintang, avait le pouvoir. Et ce parti était soutenu par le PCC, qui ne comptait à ce moment-là qu'une cinquantaine de membres.
Ouais.
Mais petit à petit, le PCC a fait des émules et s'est mis en relation avec le mouvement communiste international russe particulièrement.
Tiens.
Et en 1925, le PCC comptait déjà 20 000 membres, surtout des étudiants. Donc en peu de temps, en 4 ans, on est passé de 13 à 20 000 quand même. Hein.
Mmh, puis des intellectuels,
on aimerait bien que sur notre page Facebook,
coup.
Ce soit comme ça.
Hein. C'est clair, il faudra déjà qu'on soit à 13.
Là, peut-être que dans 4 ans,
on est à 13 quand même, rassure-moi.
Oui, on est à plus de 13. Voilà. Donc surtout des étudiants. Et les relations devenaient conflictuelles avec le Kuomintang, qui était le parti au pouvoir en Chine, les nationalistes de Chiang Kai-shek, ne l'oublions pas.
Oui.
Et ce sera la guerre civile et Mao arrivé tranquillement à la tête du PCC. Mm-hmm. Lui, il a pris son temps, ça n'a pas été comme Gabriel Attal, un prodige dans... Voilà, il a été beaucoup plus lent, Mao.
Ouais.
Le PCC, qui n'ayant pas d'armée, va s'intéresser aux masses paysannes pour en faire un mouvement puissant qui deviendra la fameuse longue marche.
Ah oui, la marche.
Entre 1934 et 1935.
Mais alors, cette longue marche, qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait ?
Alors, on peut dire que la longue marche est devenue un des mythes fondateurs du PCC.
Ouais.
Elle symbolise l'endurance, la résilience et la capacité des communistes à surmonter les obstacles les plus insurmontables.
Mmh.
En 1934, le Kuomintang, donc le parti au pouvoir, avait affaibli les communistes en les attaquant sans cesse et en les encerclant sur leur territoire. Alors, devant ces attaques incessantes, c'était 1 million de soldats du Kuomintang, hein, c'était énorme.
Ah oui.
Les forces communistes étaient plutôt mal en point. Ils étaient, rappelez-vous, 20 000 membres. Enfin, il y en avait plus après,
mais
ils n'étaient pas encore 1 million. Alors, en octobre 34, Mao et le PCC ont décidé de partir pour rompre l'encerclement et de se replier vers des bases plus sûres dans le nord de la Chine.
Mm-hmm.
Et ce sera donc la longue marche, l'épopée la plus célèbre de l'histoire de la Chine. Elle aura duré un an, 100 000 hommes au départ, pour 12 000 kilomètres.
Ah oui.
Avec des conditions très difficiles vu la géographie du terrain et le climat.
Mmh.
Et le KMT, donc le Kuomintang, les agressait sans cesse et les pertes humaines ont été terribles. On estime qu'environ 5 000 des 100 000 membres originels ont survécu. C'est pas beaucoup. Hein.
Ah oui, d'accord, je crois que c'était victime, mais non, c'est 5 000 qui ont survécu.
Non. Ah, ils se sont fait complètement décimés par le Kuomintang.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Voilà.
D'accord.
Donc, on va écouter une chanson révolutionnaire, de la culture révolutionnaire. C'est « Selling the Seas Depends on the Helmsman ».
D'accord.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa. Ne tournez pas les boutons de votre TSF. Hein, c'est bien Radio Alpa, on est bien d'accord. Et avec Asialogie, parce que bah là, on était quand même parti loin. Là,
Mais tu nous as surpris, Didier, un petit peu. Hein,
un petit peu.
Avec ton chant culturel révolutionnaire.
Disons qu'on est dans l'ambiance.
On est dans l'ambiance.
Voilà. Maintenant, le résultat de cette longue marche, puisqu'on en était resté là avec tous ces morts,
oui, enfin,
que
de morts.
Ces survivants en fait plutôt, ça a donné quoi en fait au final?
Alors durant la marche, Mao a émergé comme le leader incontesté du parti, supplantant tous les autres dirigeants. Et Mao était donc un grand meneur d'hommes, hein, ça c'est une réalité.
Ah,
et la longue marche a été son socle de propagande. Alors à la suite, les forces communistes se sont réorganisées dans une nouvelle base, hein, puis ils ont continué à grossir, hein, pour continuer l'organisation de la lutte révolutionnaire, notamment contre l'envahisseur japonais.
Oui.
Car dans cette partie du monde, en 1937, on est déjà au début de la guerre mondiale.
Ben.
Voilà. Alors,
du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Mao, pendant et après ces 8 années de guerre?
Oui, ça a duré 8 ans, voilà. L'important a été de faire une alliance temporaire avec le Kuomintang, les nationalistes, pour lutter contre l'envahisseur japonais. Ils avaient quand même un sentiment patriotique commun, hein, avec les nationalistes, les communistes. Alors, c'était une guerre très meurtrière pour les Chinois, vraiment.
Ouais.
Hein, les Japonais, leur ont rien...
Enfin, ils n'ont pas l'habitude hein, de faire à moitié.
C'est ça. Et ça a permis à Mao de consolider son pouvoir et son influence, surtout dans le milieu rural. Voilà. Hein, la capitulation du Japon mettra fin à la guerre et le monde va changer profondément. Staline va ordonner à Mao de s'allier avec le Kuomintang, le KMT, pour reconstruire le pays.
D'accord.
Mais Mao va poursuivre sa révolution avec ses troupes. Et ses troupes vont battre en 1948 celle de Chiang Kai-shek, soutenue par les États-Unis. On en avait parlé dans la saison 1.
Un
Chiang Kai-shek qui s'enfuira à Taïwan en décembre 1949 avec 2 millions de partisans.
C'est ça, ça.
Voilà, 2 mois après la fondation de la République populaire de Chine par Mao, qui avait 56 ans.
D'accord. Voilà, on a bien hâte de savoir la suite, mais... Sur un plan personnel, qui était Mao, en fait, on connaît peu sa personnalité.
C'est vrai, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ce qu'il était trop. Hein. Alors, c'était un homme aux multiples facettes. Alors, on connaît tous son visage et même sa silhouette un peu ronde.
Oui.
Alors, il mesurait entre 1m65 et 1m70. On ne sait pas trop, mais la propagande dit qu'il mesurait 1m80.
Forcément, c'est
et
un grand homme.
Voilà,
bah,
et ses statues le montrent toujours très grand.
Bah oui.
Il avait gardé et entretenu son accent de la campagne exprès pour mieux se légitimer auprès des paysans.
Aïe.
Et
homme du peuple.
Voilà, homme du peuple. Et il fumait cigarette sur cigarette et consommait énormément de somnifères. C'était un grand insomniaque.
D'accord.
Alors, c'est son médecin personnel qui a mis en lumière dans ses mémoires certains aspects moins connus de sa vie privée que je ne détaillerai pas là, mais c'est assez croustillant. Il avait de nombreuses relations sexuelles et il avait un manque d'hygiène incroyable. En gros...
Ça ne va pas avec.
Voilà, ça ne va pas avec du tout. Il ne se lavait qu'avec une serviette chaude.
Bah tiens.
Et se rinçait la bouche avec du thé. C'est jamais laver les dents.
Bien.
Il a souffert de problèmes de peau, de problèmes dentaires, d'angoisse, d'insomnie, de paludisme, de constipation chronique, de problèmes cardio-pulmonaires et neurologiques, pour finir par mourir d'un infarctus.
Eh ben.
Voilà. Et il pouvait être aussi sympa et chaleureux comme colérique et malveillant.
Oh, c'est souvent ces hommes-là. Hein.
Voilà. Et son médecin le décrit comme un homme sans amis, méfiant. Et son médecin le compare même à Caligula.
Ah oui.
Ayant eu comme lui une vie décadente. Mais je pense que son médecin a des comptes aussi à régler.
D'accord.
Et on est là bien loin des images de propagande.
De toute façon, la propagande, ça porte bien son nom. Quoi,
voilà. Hein. Alors, il s'est quand même marié 4 fois, a eu 9 enfants.
Ah.
Et sa dernière femme, hein, la quatrième, Chan Ching, on en parlera, l'impératrice rouge.
Ah oui, oui.
Alors, c'est important.
Ça
c'est son
une belle
épouse, la, oui, tout à fait, la plus célèbre. Bon, il faut savoir aussi que Mao était un poète reconnu.
Ouais.
Il écrivait, alors selon les codes classiques, il a bien sûr écrit le petit livre rouge lui-même, mais aussi de très beaux poèmes romantiques faciles à trouver en librairie.
Ah oui.
Et c'était vraiment un très bon... Enfin,
ah oui, c'était un bon poète alors.
Ah oui, oui.
D'accord.
Oui, oui.
J'aurais voilà. pas forcément pensé.
Bon, pour aujourd'hui, on arrête là sur Mao, Didier. Oui. Et on va écouter une chanson un peu rigolote d'une série coréenne qui s'appelle Mr. Queen. Ça va bien nous lancer sur la cuisine royale.
C'est ça. Et là, je vous promets, c'est beaucoup plus moderne.
C'était Park Woo-jin, la chanson So You de la bande originale de Mr. Queen.
Ouais, c'était...
Super série.
Voilà. Mais là, c'était plus moderne quand même.
C'était quand même plus moderne Vraiment. Et plus mignon que le
C'est
chemin
ça.
Du soldat.
Exactement. Ouais.
Alors bon, en attendant de retrouver Mao dans une prochaine émission, Didier, oui. tu vas nous mettre en appétit en nous racontant ce qu'était la cuisine royale en Chine, en Corée et au Japon. Je ne sais voilà. pas si tu nous le présentes comme ça.
Si, si, on va si. Y aller comme ça. Hein.
D'accord.
D'accord. Pas de souci. Bon, alors, il y a tout d'abord un proverbe chinois qui dit « Bien manger, c'est atteindre le ciel ».
Oh, c'est hein? beau.
Oui. Et à Asiologie, bah, on sait combien manger est important en Asie. Je crois qu'on en a
c'est
déjà
vrai.
Pas mal parlé.
Oui.
Il faut savoir que chaque pays avait sa cuisine royale distincte, composée d'ingrédients rares, avec des techniques de préparation sophistiquées. La présentation des plats était toujours très artistique et les ingrédients exceptionnels. Une très grande qualité. On peut dire que ce sont des points communs de toutes ces cuisines royales, par contre.
Oui, et puis de la cuisine encore aujourd'hui. En
oui,
Asie,
bien sûr, bien sûr. Bah, la grande cuisine, quoi.
Oui, oui.
L'accent a été mis sur des aliments naturellement nutritifs et bénéfiques pour la santé, avec une grande importance accordée à l'équilibre des saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide, l'épicé. Les aliments servis avaient une signification symbolique. Par exemple, certains plats étaient censés apporter chance, apporter la prospérité, pardon, comme le poisson, ou la longévité, comme les nouilles. De plus, les rituels de service et de dégustation étaient extrêmement codifiés.
Donc, on commence par la Corée, Didier, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. Oui. La cuisine royale coréenne a toujours été raffinée, souvent influencée par des rituels culturels et religieux. La cuisine royale différait de la cuisine traditionnelle coréenne par la variété, la complexité des plats et les méthodes de préparation. Les repas royaux coréens comportaient au moins 12 plats, avec de nombreux plats d'accompagnement appelés banchang, soigneusement assortis pour équilibrer saveur, texture et couleur.
Oui, c'est voilà, l'harmonie des couleurs
c'est
en
ça.
Corée.
Important. Toujours, là aussi, règle toujours d'actualité, il y avait toujours de la soupe de riz, des viandes, des légumes, le tout servi avec une esthétique et une rigueur stricte pour refléter l'harmonie et l'équilibre.
Alors, quels étaient les plats typiques de la cuisine royale coréenne, Didier ?
Alors, le plus emblématique, c'était le gunjeolang.
Gunjeolpan, je crois.
Gunjeolpan, voilà, c'est moi qui...
Ah, il va falloir que tu revoies ton coréen.
Ah, oui, c'est clair. C'était un plat très élégant. C'était une grande assiette avec 9 compartiments, dont un central contenant de fines galettes de blé, entourées de 8 plats différents à déguster dans les galettes. Il y a aussi le shinzolo, une fondue avec des boulettes de viande, des légumes, des œufs et des fruits de mer cuits dans du bouillon.
Ça doit être bon, hein.
Oui, ça peut pas être mal. Et comme dessert, des tsiak, des gâteaux de riz farcis avec des haricots rouges ou des fruits secs. Bon, cette cuisine avait une particularité, elle incluait des éléments de la médecine traditionnelle. Les plats étaient aussi préparés avec des herbes médicinales et des aliments connus pour leurs bienfaits pour la santé et pour équilibrer les énergies du corps selon le yin et le yang. On trouvait aussi des aliments curatifs comme le ginseng, dont on parlera bientôt, les jujubes et les graines de sésame. Alors, si vous allez en Corée, vous pourrez déguster dans des restaurants spécialisés la cuisine royale coréenne qui est à l'origine du patrimoine culinaire du pays.
Et au Japon ?
Alors, au Japon, on appelle la cuisine le kaiseki. C'est originaire de Kyoto. Bah oui, forcément, la ville où séjournait la cour et la noblesse impériale pendant plus d'un millénaire. Et comme en Corée, bah, cette cuisine est un mélange d'art culinaire raffiné, de traditions et de rituels qui remontent à des siècles. Elle était influencée par spiritualité shinto et des bouddhistes, ainsi que par l'esthétique japonaise. Elle se distingue aussi par son raffinement, par la qualité exceptionnelle des ingrédients et des préparations minutieuses pour sublimer la simplicité et la beauté naturelle des aliments. La cuisine kaiseki trouve ses racines dans la cérémonie du thé, avec son concept.
C'est
voilà.
Pour ça que c'est si sophistiqué.
C'est ça, dérivé des principes zen. Chaque plat était préparé pour équilibrer la saveur, la texture, la couleur et le visuel. Ils sont toujours présents, le riz, le poisson, les légumes et les algues. Et du fait de l'influence bouddhiste, les viandes étaient rares et souvent remplacées par du tofu.
Oui, c'est vrai qu'ils ont été végétariens pendant pas mal de temps, les empereurs au Japon. Alors, rapidement Didier, pour le Japon, de quoi était composé un repas impérial ? Est-ce qu'il y avait des choses particulières ?
Alors, il était composé traditionnellement de 5 saveurs. Acide, salé, sucré, amer et bien sûr, ceux qui nous écoutent, l'umami. Et les 5 couleurs pour représenter la nature. Le jaune, le marron, le vert, le blanc et le rouge. Les techniques de cuisson étaient présentes. Vapeur, bouillie, marinée, grillée, frite. Les ingrédients utilisés étaient choisis pour stimuler les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. En général, ils étaient servis avec des sazuki. Les amuse-bouches, souvent à la base de légumes de saison ou de fruits de mer. L'owan, une soupe claire servie avec un élément flottant, comme du tofu ou du poisson, ou du mukozuke, des sashimi présentés de manière artistique, en fait, accompagnés de condiments. Aujourd'hui, on peut aussi, au Japon, faire l'expérience d'un dîner kaiseki, mais c'est très cher.
Oui, c'est ça, on peut manger la cuisine impériale aujourd'hui dans des restaurants spécialisés.
Voilà.
Alors bon, en Chine, je sais qu'ils ont inventé le congélateur et le réfrigérateur. c'est des choses, ils avaient des fosses à glace et tout ça. Donc j'imagine qu'on va avoir droit à des plats incroyables. Alors de quoi était composée la cuisine impériale en Chine, Didier ?
Alors, la cuisine impériale, elle comportait 2 volets, le repas quotidien et le festin de gala. Le repas quotidien se composait en général d'une 50aine de plats, sans compter les pâtisseries.
C'est alors, déjà beaucoup,
c'est
50
pas mal,
plats,
hein, 50,
parce qu'on était à 12 en Corée.
Oui, c'est ça. Mais tu vas voir, c'est pas fini. Lors des grandes occasions, les empereurs offraient des banquets somptueux aux dignitaires et aux membres de la famille impériale. Il pouvait y avoir plusieurs milliers de convives. Au XVIIIe siècle, le festin le plus copieux était le banquet du menu complet de Manchu Han, qui comptait 108 à 230 plats.
Impressionnant.
Alors, imagine le temps qui reste à table, rassemblant les mets les plus exquis, forcément des Han et des Manchu. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors, les 8 précieux oiseaux, les 8 précieux produits de la mer, les 8 précieux produits de montagne qui méritent d'être détaillés. La bosse de chameau, la patte d'ours, la tête de singe, les lèvres d'orang-outan, le placenta de panthère, la queue de rhinocéros, le tendon de cerf, par exemple. Bah, voilà, les 8 précieuses plantes. On sait que le chiffre 8 est porte-bonheur. En Chine, le festin durait 2 à 3 jours. À cette époque, les plats étaient destinés à impressionner. Et là, on est impressionné.
Ah, mais ça, c'est sûr, on est impressionné. Alors, il y avait quand même des plats emblématiques plus simples.
Ça, c'est sûr qu'il y avait des plats emblématiques plus simples. Par exemple, le Bouddha qui saute au-dessus de la muraille, c'était un ragoût élaboré.
C'est sympa, ça.
Il saute au-dessus de la muraille avec plus de 30 ingrédients, avec des ailerons de requin, des nids d'hirondelles, les fameux nids d'hirondelles qu'on va chercher.
Oui, on en reparlera aussi, des nids d'hirondelles.
Du concombre de mer, voilà. Le fameux canard laqué de Pékin, un canard rôti
très bon.
À la peau croustillante, servi avec des crêpes fines et du concombre à la sauce voisine. Donc voilà, je pense que je vous ai mis l'eau à la bouche. Là,
oui, alors c'est un plat qu'on peut manger facilement aujourd'hui.
Oui.
Hein, c'est un plat symbolique de la cuisine chinoise.
C'est ça. Alors c'est une recette élaborée au XVIIe siècle en fait.
Oui, c'est vieux, oui.
Qui a longtemps été réservée à l'aristocratie, vous imaginez bien. En 1864, un premier restaurant de canard laqué a ouvert à Pékin, le Kanjoud. Et cette enseigne possède aujourd'hui une centaine de restaurants dans le monde, dont un à Paris et Bordeaux.
Il faudra qu'un jour on essaye ça.
Eh ben voilà, il faut qu'on fasse une émission là-bas, moi je dis.
Oui, oui, oui. Hein? Non, mais ah, c'est bah voilà, parce c'est que tout, c'est vrai que c'est un super plat, le canard laqué.
Bon, eh bien écoute, sinon, la préparation, pour que les volatiles soient bien dodus, on engraisse 65 jours avec un mélange de maïs, du soja, du sorgho, de l'orge, et puis, puisqu'il y a la marinade, la fameuse laque qui va enduire le canard, elle est à base de miel, d'épices, dont la composition exacte est tenue secrète. Alors, le plus spectaculaire, c'est la cuisson, faite dans un four à bois à demi ouvert. Le canard est accroché au bout d'une perche et manipulé par un cuisinier spécialisé, on s'en doute, hein, pendant 30 à 40 minutes. Il y a le service fait en trois temps. Le canard est d'abord présenté à table entier, puis la peau découpée en une centaine de tranches fines. On enroule les lamelles dans une crêpe garnie de ciboule et de concombre. On les trempe dans la sauce
wagyu
avant de les manger et oui, à table. Puis le canard retourne en cuisine pour se faire sauter au wok avec des nouilles et des légumes afin d'être dégusté en deuxième plat. La carcasse servira à faire un bouillon. Car hors de question que pour les Chinois de perdre une miette d'un canard laqué. Voilà, un bon petit tour d'horizon de la cuisine royale d'Asie. Wow. Et là, si avec ça, vous n'avez pas un peu d'appétit après cette émission-là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, madame.
Mais merci en tout cas. Bon, il faut savoir. Alors, pour voir ce que ça donne au cinéma, moi, je vous recommande de voir le film de Tsui Hark, Le Festin chinois. Hein. C'est un film qui date des années 90. C'est un mélange très drôle d'arts martiaux et de cuisine. Et on y apprend à cuisiner la pâte d'ours.
Ah, d'accord.
Oui. Alors bon, Asialogie, c'est fini les amis. Didier, merci.
Ben, c'est moi.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Voilà, salut. On vous retrouvera avec plaisir. J'essaierai de moins bafouiller la semaine prochaine. Quoi.
Non, hein? Mais t'avais peut-être mangé trop de canard.
Ah,
ou
c'est
je
ça.
Sais pas.
Eh ouais, voilà. Ouais, ben voilà, j'ai la solution.
Peut-être.
Allez,
peut-être.
Cette fois, à la semaine prochaine.
Salut.